Ce n'est pas vrai. La loi de Moïse ne dit pas qu'il faut lapider les femmes adultères. La loi dit « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. » C'est dans le livre du Lévitique et c'est repris dans le livre du Deutéronome. « Ils mourront tous deux. » L'homme qui a couché avec la femme et la femme également, tu enlèveras le mal du milieu d'Israël. En séparant la femme de l'homme, en l'amenant seule, ces hommes reproduisent la faute originelle, le péché d'Adam. C'est la femme qui a fait ça. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. Et vous le savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en prendre le fruit, signifie s'arroger le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal, le pouvoir de juger, le pouvoir de condamner. Pourquoi l'amènent-ils seuls? Est-ce qu'ils auraient déjà tué l'homme? Ou est-ce qu'il s'est enfui, ils n'ont attrapé qu'elle? Existe-t-il seulement? J'ai lu quelque part que c'était là le piège qui était tendu à Jésus. J'imagine volontiers pour ma part qu'ils les ont attrapés tous les deux et que l'épouse trompée a repris son mari infidèle et a dit aux hommes qui en étaient chargés en disant qu'ils les avaient attrapés, en disant « Je m'occupe de lui, occupez-vous d'elle. » Ou alors, c'est l'inverse, c'est le mari de cette femme infidèle qui s'en est débarrassé, qui l'a livré aux anciens, qui a fait ce qui est prévu d'ailleurs dans la loi, pas pour les entre conjoints, pour les enfants rebelles et indociles. Lorsqu'un homme a un fils rebelle, obstiné, qui n'écoute ni son père ni sa mère, s'ils font la leçon et qui n'écoute toujours pas, eh bien il l'amène aux anciens de la ville en disant « Non, on n'y arrive pas, notre fils que voici est rebelle et obstiné, il ne nous écoute pas, c'est un débauché, c'est un buveur, et tous les anciens le lapident. » Jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte, tu enlèveras le mal du milieu de toi. Est-ce que c'est dissuasif? Est-ce que c'était seulement mis en pratique? Disons que c'était censé être dissuasif. Mais cette femme, quelle conscience avait-elle de sa faute? Quelle conscience avait-elle de sa faute? On peut quand même imaginer que c'était une passion, au moins charnelle. Autrement dit, c'est une femme aveuglée par la passion. C'est une aveugle qu'on amène à Jésus. C'est une aveugle qu'on amène à Jésus en lui proposant qu'elle soit exécutée. Il ne lui demande pas de la guérir, de lui ouvrir les yeux. Il lui demande de bénir cette exécution. Une femme est venue me voir avec son mari parce qu'ils attendent un enfant. Et voilà qu'au cinquième mois de grossesse, c'est le premier enfant, les médecins disent qu'il faut une interruption thérapeutique. Il faut mettre fin à la vie du bébé, vu le diagnostic prénatal qui est d'ici le catastrophique et qu'il présente comme une certitude. Une certitude pour eux scientifiques, ils ne peuvent pas se tromper. Sont pourtant les mêmes, comme chacun de nous qui s'exclame, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça, quand la réalité vient démentir tout ce qu'on connaît, tous les pronostics. D'où vient qu'il y a du mal dans le monde? D'où vient qu'il y a du mal dans le monde? Est-ce véritablement cela la question, ou d'où vient qu'il y a du mal dans le cœur de l'homme? Dans notre cœur. D'où vient que le cœur de l'homme soit malade, compliqué et malade, dit le prophète Jérémie, au point, et on le voit dans tant de circonstances, de tuer des personnes qui ne peuvent pas se défendre. D'où vient qu'il y a du mal dans le monde? La question apparaît dans l'Évangile, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Quand les serviteurs s'aperçoivent que dans le champ de blé qui a été semé, il y a plein de mauvaises herbes de l'ivraie. Et ils vont voir le maître, « Seigneur, mais n'est-ce pas par bonté, n'est-ce pas dans ton amour que tu as créé le monde ?» Semer ton champ, c'est ça, c'est une parabole. Créer le monde, d'où vient que dans le monde, il y a tant de violence, tant de souffrance, tant de malheur, la maladie, la guerre, la mort. Et le maître répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Et beaucoup de croyants l'entendent, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire, c'est le diable. Ils s'arrêtent là et font du diable à cause de tous les maux. En oubliant que, quelle que soit l'action du diable, cela n'élimine jamais la responsabilité de la personne. Et il faut surtout lire la parabole jusqu'au bout, quand les serviteurs demandent au Seigneur, « Veux-tu que nous allions arracher le mauvais grain, la mauvaise herbe ?»« Non ! Vous risquez d'arracher le blé. » Le tri se fera au moment de la moisson, et nous le comprenons très bien, au moment du jugement. Allez dire aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui que le mal est une réalité spirituelle, que le malheur a une dimension spirituelle, que le diable est partie prenante de nos infidélités, de nos violences, de nos emportements, et qu'à sa façon d'ailleurs, le diable aussi crie justice. Nous sommes là parce que nous croyons que la violence appelle une réponse qui s'appelle la conversion de notre cœur. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Cette phrase litanique qui revient sans cesse dans tout l'Ancien Testament, 7 fois au moins de façon littérale dans le livre du Deutéronome, tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Ce milieu de toi, c'est notre cœur. Le Christ est venu. L'Esprit Saint nous a été donné pour que nous fassions disparaître le mal de notre cœur. Et pour cela, Dieu nous donne 3 armes. La compassion, l'espérance, le pardon. C'est facile à retenir les initiales, CEP comme CEP de vigne, compassion, espérance, pardon. Ce sont les 3 réponses de l'amour au mystère du mal, aux 3 formes que, traditionnellement, la philosophie distingue. Le mal physique, c'est-à-dire la douleur, le mal métaphysique, la maladie, la catastrophe, la mort, le mal moral, la violence, l'agression, la guerre. La compassion, c'est la réponse de l'amour au mal physique, à la souffrance. L'espérance, c'est la réponse de l'amour au mal métaphysique, la mort. Le pardon, c'est la réponse de l'amour au mal moral, l'offense, l'agression, la violence. La compassion pour cette femme, livrée à la vindicte. L'espérance de sa conversion. Et le pardon qui provoque sa conversion. « Moi non plus, je ne te condamne pas, » dit Jésus, qui ajoute, « Va et ne pêche plus. » Dieu pardonne pour que nous nous convertissions. Dieu ne pardonne pas si nous nous convertissons. Dieu pardonne pour que nous convertissons. C'est ce que dit une des plus belles hymnes de Carême. « Point de prodigue sans pardon qui le cherche. » Point de prodigue sans pardon qui le cherche. Nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le Fils renaît, joie du retour au Père. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres. Point de ténèbres sans espoir de lumière, rien n'est fini pour Dieu. Vienne l'aurore où l'amour surgit, chant d'un matin de Pâques. Allez à ma vigne, dit le Seigneur. À ma vigne, c'est le Christ, le cep de vigne, le cep, la compassion, l'espérance, le pardon.
Point de prodigues sans pardon qui le cherchent. Nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le fils renaît. Joie de retour au Père. Point de blessure que sa main ne guérisse. Rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres. Point de ténèbres sans espoir de lumière, rien n'est fini pour Dieu. Vienne l'aurore où la mort surgit, chant d'un matin de Pâques.
Je crois en Dieu, le Père.